Vous êtes dans Restons Courtois, l'émission de débat chaque jour en direct de 17h30 à 19h30 sur Radio Courtoisie. Nous sommes avec Laurent Andrieu, on parle de sa carrière. Et vient donc de nous rejoindre Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous venez de sortir un livre d'entretien avec Laurent. Vous avez expliqué comment vous avez réussi, comment Laurent a réussi à vous faire parler de vous, parce que vous aimez toujours parler, mais pour essayer de convaincre les autres que vous avez raison, mais parler de votre intimité est plus compliqué généralement. Mais racontez-nous, comment vous avez rencontré Laurent ?
Alors, je le lisais depuis un bon moment déjà. Alors, j'avais lu sur Woody Allen que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Je me commande un jour, je vois qu'il y a un nouveau bouquin de lui sort. Je pense que j'avais écrit un mot à l'époque.
Oui.
Je vois qu'il sort un nouveau bouquin, Dictionnaire passionné du cinéma. Je le commande, je commence à le lire. Puis là, c'est une espèce de séquence de lecture qui nous arrive de temps en temps. Je survole un peu. Puis là, à un moment donné, finalement, je ne fais que lire ce livre pendant 4 ou 5 jours. Donc, je lis une page à l'autre. Finalement, je ne sors pas du livre qui devient ma fréquentation exclusive pendant quelques jours. Je lui écris un mot, comme cela, c'est-à-dire, franchement, c'est passionnant. Je suis probablement une des nombreuses personnes à vous avoir écrit à ce sujet, mais quoi qu'il en soit, bravo. Il me répond tout ça. Bon, très bien, merci. Il vient ensuite au Québec pour je ne sais quelle raison, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et je lui dis, ah, ben, formidable, on va se rencontrer. Donc je lui présente, il commence par Québec, il vient ensuite à Montréal. J'avais globalement compris qu'il était plutôt catholique. Donc je le présente à des amis qui sont à Québec, lui est prof de philo, lui et sa femme ont 12 enfants environ, 12 ou 13, je pense.
On sait plus.
Donc théoriquement
ça change tout le temps.
Au bout de 3 c'est la même chose. Et quoi qu'il en soit, donc il se rencontre là-bas, il l'amène à Charlevoix qui est une belle région du Québec, Laurent arrive à Montréal ensuite, on fait un dîner, on est quelques-uns, la conversation est absolument passionnante et amusante, j'en souviens très bien, on était 4, on était sur le mode, nous étions 3 jeunes conservateurs qui faisaient l'expérience d'un vrai réactionnaire. Donc c'était pas mal. Je me rappelle quelqu'un, on comprend qu'il est un peu monarchiste, et l'un de mes amis qui croit poser une question sophistiquée dit « Alors vous souhaitez une forme de monarchie constitutionnelle ?» Il a dit « Une forme de monarchie constitutionnelle comme les Belges ?» Et le lendemain ou le surlendemain, on se revoit. Puis à partir de là, je crois, l'amitié se noue immédiatement, mais vraiment de manière spontanée. Quelques mois plus tard, je vais à Paris, on dîne. Puis ensuite, à partir de là, chaque fois que j'allais à Paris, on se voyait, j'y allais quand même souvent, on se voyait une fois ou deux pendant le séjour et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est...
Mais vous n'êtes pas rancunier, parce que de mémoire, il n'y a pas un Chuck Norris dans son dictionnaire de cinéma.
Ça, j'ai remarqué. Mais c'est correct, Chuck Norris...
Figurez-vous que j'en ai jamais vu aucun.
Non, j'ai compris ça aussi. Mais Chuck Norris, ce qui est faux par ailleurs, parce qu'une fois, il était chez moi pendant qu'on préparait le bouquin, et j'ai montré une scène de Chuck Norris qui, à mon avis, est une scène digne d'anthologie, celle-là, mais on peut avoir des désaccords. Quant à moi, j'ai un faible pour les barbus américains des années 80 qui vont battre les ennemis de l'Amérique à l'époque où c'était convaincant.
Je faisais récemment à l'université d'été de l'ISS, à l'invitation de Mathieu, une conférence sur la transmission du beau et j'ai eu cette formule « Une heure donnée à Chuck Norris est une heure volée à Shakespeare ». Ça n'a pas plu à Mathieu.
J'ai tant de désaccords. Chuck est tout à fait shakespearien.
Ben, je comprends. Et alors vous, Laurent, vous lisiez Mathieu avant ou ça s'est vraiment rencontré parce qu'il vous a écrit?
Quand il m'a écrit à propos du Woody Allen, j'avais pas la moindre idée de
d'où était le Québec.
Voilà, non, de qui c'était. Et je crois qu'en France, on n'était pas, il y avait pas grand monde qui le savait à l'époque. Et puis quand il m'a écrit une deuxième fois, je me suis dit tiens, c'est quand même curieux. Là, j'ai commencé à googliser sérieusement. Je me suis dit tiens, ça n'a pas l'air totalement inintéressant. Et donc j'ai commencé à le lire à ce moment-là. Mais effectivement, quand on s'est rencontrés, je ne savais pas vraiment à qui j'avais affaire et qui j'allais rencontrer.
Mais on va reparler ensuite de Babel que Mathieu a préfacé. Mais parlons d'abord de votre dernier livre que vous avez fait, donc un livre d'entretien. Vous avez réussi à convaincre Mathieu?
J'ai beaucoup insisté.
Et vous, Mathieu, comment vous avez accepté de vous confier à Laurent? C'est parce que c'est votre amitié qui est... Voilà.
Oui, et la promesse, j'ai tout de suite compris que ça se passerait avec du vin, du saucisson, du fromage à répétition.
Du whisky.
Voir un ami précieux plusieurs fois dans un délai, dans une période relativement fixée, où on a chaque fois une forme de banquet tout en globalement devisant sur le sort du monde, ce qui va et ce qui ne va pas, franchement, l'offre valait la peine, et c'était sous le signe de l'amitié.
Moi, j'ai beaucoup insisté quand même. Hein. Il a fallu le convaincre, mais je pense qu'effectivement, l'amitié a été décisive. Moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement que j'avais le sentiment que j'avais la chance de bien connaître Mathieu et qu'il avait surgi dans la vie intellectuelle et médiatique française un peu comme un ovni et que les gens qui l'écoutaient, qui le lisaient, ne savaient pas trop qui il était et que donc ça méritait d'être raconté. Et en préparant le livre, je me suis rendu compte en plus que c'était l'histoire c'était le moyen aussi de faire l'histoire de la relation entre la France et le Québec, de mesurer l'importance qu'a la part québécoise de notre identité, en fait, qu'on a complètement oubliée, et toute cette aventure de l'Amérique française qui est absolument exceptionnelle et qui dit beaucoup de choses de notre identité, qui est intéressante aussi à rappeler. Et puis aussi, on s'aperçoit que beaucoup questions qui se posent au Québec et à travers sa quête, pour le moment provisoirement malheureuse, de l'indépendance, finalement renvoient à des questions qui se posent aussi chez nous. Et donc il y a des parallèles très intéressants à faire, je trouve.
Et culturellement, le Québec, alors il y a Denis Arcand en cinéma, on pourra ajouter Denis Villeneuve. En musique, on va pas citer Céline Dion parce que sinon il va râler, mais Charles Bois, les Cowboys Fringants, évidemment.
Gilles Vigneault.
Vous aviez une connaissance, peut-être pas une passion, mais le milieu culturel québécois vous intéressait ?
J'avais une connaissance par mes aînés, mes frères et sœurs aînés, qui écoutaient pas mal de musique québécoise. Donc chez nous, on avait des disques de Beau Dommage en grand nombre. On avait du Félix Leclerc, on avait du Gilles Vigneault, donc et évidemment du Charles Bois. Et donc la chanson québécoise m'était assez familière. Après, le versant littéraire. Oui, mais t'es plus inconnu, je dois dire.
Et alors, Frédéric Rouvillois disait un peu plus tôt que déjà dans Réaction, vous faisiez des liens entre la musique baroque et la pop anglaise.
Oui.
Expliquez-nous ce concept.
Oui, mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est aussi... allez, ça y est, je vais faire mon troisième tour d'immodestie. Je pense que c'est une des spécificités de ma carrière de journaliste, c'est que généralement les journalistes culturels sont plutôt spécialisés. Et moi, c'est vrai que j'ai été critique littéraire, j'ai été critique de cinéma, j'ai été critique théâtrale, j'ai été critique d'art, et j'ai essayé d'être tout ça à la fois en même temps, et de pouvoir passer de Woody Allen à Frangelico en essayant... Que tout ça forme un tout assez cohérent. Et donc c'est à la fois une difficulté parce que les gens savent pas dans quelle case vous mettre, et qu'en France on aime bien mettre les gens dans des cases, et donc je pense que on vous prend moins au sérieux que si vous creusiez un domaine unique. Mais moi je pense que c'est quand même plus intéressant parce que ça permet de créer des passerelles entre des domaines et qui ne paraîtrait pas évident, mais qui font des résonances intéressantes. Mais par exemple, puisqu'on parlait de Rome ou Babel, je reste persuadé que c'est un livre qui n'a pas été reçu exactement comme il aurait dû être reçu, parce que beaucoup de gens l'ont vu comme l'essai d'un critique de cinéma. Donc,
on va en reparler de
potentiellement un truc fait par un type qui essayait de péter un peu plus haut que son cul.
Si il y avait un petit mépris, quoi.
Ouais, je pense que, effectivement, si j'avais eu l'étiquette universitaire et philosophe, je pense que ce livre-là aurait été plus considéré qu'il ne l'a été.
Ouais.
Alors ça, c'est peut-être un des accords de fond que j'ai avec Laurent, c'est l'appréciation de sa position dans le système intellectuel parisien. C'est-à-dire, lui-même a tendance quelquefois à dire « on me traite comme un critique littéraire ou critique cinéma périphérique, et ainsi de suite », un peu comme il vient de résumer. Or, je constate au fil de mes conversations nombreuses, au fil du temps dans cet environnement qu'il m'arrive de fréquenter un peu beaucoup, que ça ne correspond pas à la perception qu'on a de lui. C'est-à-dire, c'est normalement considéré comme... C'est une figure très française, le journaliste intellectuel. C'est-à-dire, oui, il est journaliste, mais sa contribution, c'est livres, notamment sur le livre Église et immigration. J'ai pas le titre exact en tête.
Mais ça Église et immigration, bon, le voilà. Grand malaise.
Le grand malaise.
Voilà.
Presse de la Renaissance 2017.
Le Rome ou Babel.
Épuisé.
Les textes qu'il publie désormais régulièrement dans sa chronique dans Valeurs Actuelles, il est généralement considéré, à tout le moins au fil de mes nombreuses conversations, toujours à la manière d'un intellectuel qui compte dans l'espace mental et intellectuel qui est le nôtre. Et il m'arrive d'avoir des désaccords avec Laurent lui rappelant la chose, et lui semble, c'est sa part pessimiste non joyeuse, il s'obstine à douter de ce qui est une évidence, c'est-à-dire que c'est un des intellectuels qui compte dans la pensée française aujourd'hui. Et son Rome ou Babel, notamment, est une des méditations les plus fines, les plus subtiles, les plus importantes pour comprendre le lien entre cosmopolitisme et enracinement. C'est un ouvrage absolument fondamental qui a été reconnu, je crois, comme tel. Peut-être l'accueil dans la presse n'a pas été à la hauteur, mais je dirais que généralement l'accueil dans la presse n'est jamais à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais dans la, comme on sait, la conversation publique, dans la conversation privée qui a accompagné la réception de ce livre, c'était reçu comme un grand livre, ce qui n'est pas un détail.
Ouais, moi, personnellement, je pense que Mathieu est la seule personne au monde à me considérer comme un intellectuel. Et c'est la part très...
On ferait pas deux heures d'émission.
C'est la part très sympathique et très originale des Québécois. Ils ont des idées un peu folles comme ça de temps en temps.
Qui est le plus pessimiste entre vous deux?
Je pense qu'on l'est tous les deux autant.
De toute façon,
la différence, c'est joyeux ou moins joyeux.
Oui, c'est-à-dire que moi, je tempérament plutôt joyeux en effet, mais ensuite j'ai une vision assez sombre de la nature humaine. Je crois que Laurent a une vision plus généreuse que moi de la nature humaine. Mais ensuite,
il est plus catholique peut-être.
Peut-être, oui. C'est ça. Ensuite, il corrige justement cet élan du cœur par une saine raison qui l'amène à dire quand même, ne nous enthousiasmons pas trop, ce monde ne pourrait pas ne pas décevoir.
Alors avant, c'est vrai que je pense que ce qui nous différencie, c'est que le côté joyeux de Mathieu est lié essentiellement à son tempérament. Le mien est plus raisonné et plus fondé sur une vision théologique de l'espérance chrétienne. Après, je m'efforce que mon pessimisme... c'est pour ça que j'aime Sioran. Je m'efforce que mon pessimisme ne soit pas trop pesant sur mes contemporains, et donc d'essayer de le rendre joyeux également.
Frédéric Rouvillois, dans Réaction, vous voyez déjà que Laurent était multifacette. Il pouvait toucher à tout.
Qu'il était pessimiste. Moi, ce qui
était d'abord pessimiste.
J'ai pas entendu.
Laurent était d'abord pessimiste.
Oui,
voilà.
Ça c'est vrai.
Voilà, c'est une chose qui m'a frappé effectivement. Voilà. Et c'est un peu ridicule. Ça fait un peu ancien combattant, mais voilà, la première fois que j'ai vu côte à côte sur un canapé un peu détruit Laurent et Richard, qui s'appelait pas encore Philippe Ménard, voilà, j'ai été frappé. Effectivement, il y avait une espèce de d'intelligence triste hein, chez Laurent, une profondeur mais aussi voilà quelque chose de à côté, alors qu'à côté Richard effectivement était tout feu tout flamme et avec la vivacité intellectuelle qu'on lui connaît. Donc ça faisait un contraste qui était vraiment extrêmement intéressant et des conversations qui étaient tout à fait passionnante. Il y a une autre chose qui m'avait frappé chez Laurent, et ça confirme peut-être cette dimension-là, c'est le fait que chez lui, dans son appartement, qui était au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans un très joli quartier de Paris, dans le 5e arrondissement, il y avait des piles du journal Le Monde qui montaient à environ 1m50. Et voilà, rien que ça, si vous voulez, l'idée de conserver effectivement ces journaux qui étaient là, qui formaient une espèce de muraille imposante et relativement hostile et en tout cas sombre, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé, y compris dans quelqu'un qui sort de Sciences Po. L'autre chose, effectivement, et ce pourquoi effectivement il était heureux qu'il fût le secrétaire de rédaction de cette revue, c'est que voilà, il allait dans tous les sens, il avait des idées sur effectivement, il s'est passionné pour la musique ancienne et contemporaine, pour la littérature ou les littératures, pour le théâtre, bref, voilà. Et cette espèce de, en vous écoutant, je me disais que ce côté un peu touche à tout qu'il caractérise. Je pense que historiquement, c'est peut-être un peu l'une des marques de l'intellectuel de droite français au XXe siècle. Hein, au fond, les grands intellectuels de droite, ce sont des gens qui sont des touche-à-tout. Je pense à Thierry Molnier, par exemple, qui est un peu un de nos prédécesseurs, glorieux prédécesseurs. Ben voilà, il s'est intéressé au théâtre, au cinéma, à la musique, à la littérature. Il en a fait, il a écrit du théâtre, il a, voilà, sur un mode un tout petit peu plus sulfureux. On en parlait de Rebatté tout à l'heure, hein. Rebatté, à la fois immense écrivain et romancier, essayiste contesté, mais bon, quand même intéressant. Grand spécialiste de l'histoire de la musique et du jazz, enfin voilà, tout ça, ou Brasillach, hein, l'histoire du cinéma de Brasillach, c'est quand même quelque chose, c'est un ouvrage séminal, fondateur, hein, et donc de ce point de vue-là, cette petite revue sur laquelle on avait travaillé ensemble, et de manière plus générale, finalement, la carrière et l'œuvre de Laurent, au fond, me semble se situer vraiment dans la continuité de ce qu'est l'intellectuel de droite, contrairement peut-être à l'intellectuel de gauche, qui est plus généralement plutôt monothématique, on va dire. Oh. Voilà, nous sommes, je crois, voilà, nous sommes des polyspécialistes.
Alors déjà qu'il est catalogué journaliste d'extrême droite, alors vous lui collez Brasillach qui est rebatté en référence. Oui. Il est fasciste.
Heureusement, j'ai été sauvé par Thierry Monnier.
Il faut toujours se méfier de ses amis. Hein. Mais, donc là, je vais arriver à la rescousse. Je pense qu'on peut, par ailleurs, si on décide d'avoir une comparaison plus internationale, comparer Laurent et l'inscrire dans la lignée de Scruton, par exemple. Roger Scruton a fait un travail. Enfin, il y a une méditation esthétique qui est constante chez lui. Je pense que l'esthétique est une partie structurante de sa philosophie. Ensuite, il y a chez Scruton la méditation sur la foi, la méditation sur la beauté. D'ailleurs, il va terminer sa carrière dans une méditation sur l'architecture et le rapport au beau dans l'espace public. Sa philosophie politique est une philosophie politique de l'enracinement. Il y a le génie de la plume. Donc, si je devais le comparer à quelqu'un, je laisserais de côté les références antérieures et j'irais sur Scruton.
Okay. Sur un anglais. Ce qui va faire plaisir
à Richard. Oh, les anglais.
Ça, je pense ça.
Mais Richard aime moins les anglais. En revanche, Richard, si vous vouliez parler aussi de la. C'est vrai qu'on parle un peu moins quand on dit Laurent, critique de cinéma, et on connaît sa passion pour McCartney, mais c'est vrai que sur la sculpture, sur l'architecture, sur la peinture, vous avez aussi une belle légitimité.
Parce que Laurent, et d'ailleurs il le dit dans son dialogue avec Mathieu Boccoté, fondamentalement ce qui anime Laurent, c'est l'idée de civilisation. Voilà, donc vous disiez tout à l'heure que votre mère ne vous avait pas forcément le goût ou le sens de la transmission. Au contraire, Laurent est très attaché à transmettre. Mais et justement, transmettre, c'est tout transmettre, c'est pas choisir. Et donc, si je veux tout transmettre, je suis obligé de m'intéresser à tout. Et c'est ça aussi qui fonde un peu l'éclectisme de Laurent. Et je trouve que parmi les livres les plus intéressants qu'il a écrits, il y a notamment son livre sur les rapports entre le Bernin et Louis XIV, ouais. Qui est un merveilleux livre aux éditions du Cerf, qui est à la fois un essai sur ce moment français du Bernin. Un vrai roman policier, parce que ce sont des intrigues de cour d'une perfidie abominable par des gens géniaux par ailleurs comme Lebrun ou Perrault, donc qui dépasse un peu Jean-Noël Barrault et Laurence Descartes dans l'ampleur intellectuelle et la qualité des œuvres. Et Laurent nous fait vraiment rentrer. Alors, en plus, Laurent parle italien comme un merle qui chante au Vatican, donc nous fait rentrer dans avec le journal de Chanteloup, etc., et tous les textes qui ont été écrits dans l'intimité du Bernin, dans les jeux de pouvoir, dans ce que Louis XIV a comme politique culturelle. Et il a réédité ça aussi avec des textes sur Fra Angelico, il en parlait tout à l'heure. Et donc la peinture, la sculpture, l'architecture, voilà, ce sont des manifestations d'une civilisation française, chrétienne, européenne, et donc ça fait partie des moyens qu'il mobilise pour les apporter au lecteur et les rendre sensibles à un beau qui peut sonner dans la pop musique. Et c'est assez étrange, effectivement, il écoute énormément de pop musique.
C'est ma vraie passion.
Voilà, et aussi les séries anglaises, vous savez qu'il adore la série qui s'appelle Le Prisonnier.
Le Prisonnier.
Ouais, voilà.
Le Prisonnier.
Qui est entièrement tourné au Pays de Galles. Il lui est arrivé d'aller au Pays de Galles.
Je suis allé en pèlerinage dans le village de Prisonnier.
Voilà. Et il s'est déguisé en anglais. Je suis tombé avec un parapluie coloré. Enfin, je suis en train de parler de la transmission avec Fra Angelico et Le Bernin, mais je dois aussi avouer Le goût pervers de, que je partage, hélas, sur la série The Prisoner.
Mais le village du prisonnier, je suis tombé par hasard en plein milieu d'une convention de fans qui étaient tous déguisés en personnages de la série. Donc, ils m'ont prêté très gentiment une cape et un parapluie multicolore. Et en fait, ce village a été construit ex nihilo par un excentrique anglais qui a voulu en faire un condensé de tous les styles architecturaux occidentaux. Européen. Et du coup, c'est aussi, je trouve, c'est un exemple de transmission et de civilisationnel très intéressant. Après, moi, j'ai toujours été surpris par les gens qui ne cherchaient le beau que dans un domaine, qui s'intéressaient beaucoup à la musique, mais qui n'ouvraient jamais un roman ou vice versa, ou alors par ailleurs qui s'intéressaient à la culture, mais qui acceptaient très bien de porter des pulls informes et moches. Pour moi, le beau, il faut le chercher partout où il est, parce que ce sont autant de fragments de vérité. Et j'avoue qu'il y a aussi dans cette quête un peu transversale du beau, il y a pour moi éminemment une dimension politique. C'est-à-dire que je suis très frappé notamment par les jeunes journalistes qu'on voit monter dans la profession aujourd'hui, qui viennent aussi parce qu'ils sont tenaillés d'une certaine façon par une idée de défense civilisationnelle, mais en fait la civilisation qu'ils veulent défendre, on s'aperçoit qu'ils ne la connaissent pas du tout. Et c'est très compliqué, je pense, de défendre quelque chose qu'on connaît mal. Et donc, je pense que moi, j'ai eu longtemps, en faisant de la critique littéraire ou cinématographique, l'idée de discuter des sexes des anges alors que les barbares étaient au bas des murailles. Mais en fait, je pense que la critique d'art et la critique littéraire sont des choses vraiment essentielles parce que on défend bien que si on est pleinement conscient de la valeur de ce que l'on a à défendre.
Pierre-Alexandre Bouclet.
Ah ouais, c'est une autre anecdote sur Laurent Dandrieu qui a fait de moi un meilleur chrétien.
Incroyable. Oui. Non seulement je vais être panthéonisé, mais je vais être canonisé.
Il voilà. Faut pas... choisir là.
Les deux, c'est compliqué. Je ne suis pas spécialement une grenouille de bénitier, mais j'ai une passion pour la musique, la peinture flamande et la musique pop. Et donc, je me souviens d'un jour où j'ai acheté un numéro hors série du Figaro, oui. Où Laurent avait fait des articles.
Sur Vermeer.
Et c'était peut-être sur les Flamands en général. Il y avait un tableau d'un peintre qui, je crois, de mémoire, s'appelle Nicolas Maes.
Oui.
Et on voit une vieille dame qui récite son bénédicité avant le dîner ou le déjeuner.
Pendant que le chat essaie de piquer
le
déjeuner.
Pendant que le chat essaye de voler quelque chose. Et en fait, j'ai compris grâce à Laurent que en fait, la dame était tellement plongée dans son bénédicité qu'elle ne faisait pas attention au chat voleur qui pouvait en plus faire tomber une coupelle ou je ne sais quoi. Non mais ça m'a vraiment marqué parce que, alors encore une fois, voilà, quand je suis seul, je fais mon bénédicité avec soin. Pas quand je suis avec vous, parce que vous êtes des mécréants et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais, mais seul, j'essaye de le faire vraiment.
Quand tu prends sa retraite, tu ne fais pas d'émission, Arthur. Hein.
En fait, grâce à Laurent, et à sa critique de ce tableau de Nicolas Maes, je m'efforce toujours, depuis la publication de ce numéro, de me reprendre lorsque j'expédie le bénédicité, que ce soit verbalement ou mentalement, et de me reprendre et de le faire pour de vrai. Et voilà, je ne lui avais jamais dit de son vivant, mais maintenant, là où il est, qu'il sache que je prie pour lui.
Un jour, j'étais en retraite et j'étais dans une période pas particulièrement optimiste. Et dans une carrière de journaliste, il y a toujours une période où vous avez le sentiment que vous écrivez pour trois pelés et quatre tondus qui en plus vous ont lu de travers, que tous les combats idéologiques que vous avez menés ont tous été perdus les uns après les autres et que finalement vous avez servi à rien. Donc je racontais ça à un brave moine qui avait la patience de me servir de conseiller spirituel pendant ma retraite, et il me dit oui, bon, peut-être que vous avez cette impression-là, mais moi je me souviens d'un article que vous avez écrit en 90 dans un spectacle du Monde sur la querelle entre Bossuet et Fénelon. J'ai lu ça, j'avais 14 ans, et ça a joué un rôle très important dans mon orientation spirituelle. Donc en fait, ce que je trouve formidable dans notre métier, c'est qu'on jette des pierres au fond d'un puits, on a l'impression qu'elles vont tomber et qu'elles n'ont aucune espèce d'effet, puis en fait ça a des échos tout à fait inattendus et parfois très émouvants.
Alors vous avez jeté deux grosses pierres, deux vos livres consacrés à l'Église. Le premier, Mathieu le rappelait, Église, Immigration, Grand Malaise en 2017, mais surtout en 2022, Rome ou Babel. Et que donc Mathieu, vous avez
fait une magnifique préface.
Alors, ouais. Donc vous l'avez préfacé, donc a priori vous avez aimé le livre, ou en tout cas.
Oui, mais je ne fais pas partie de ceux qui font des préfaces sans lire le livre.
Oui,
je ne dis pas que ça n'existe pas en cette ville.
Ouais, mais il y en a plein. Mais voilà, vous recevez le manuscrit avant la publication, puisqu'il faut que vous rajoutiez votre préface. Qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui vous a. En quoi vous l'êtes ? Parce que de mémoire, vous dites que c'est un ouvrage essentiel.
Oui, alors c'est qu'il y a les deux ouvrages en fait. Le premier, je l'avais critiqué positivement sur le Figaro Vox. Laurent me demande de faire la préface. Cela dit, la vérité, je dis oui avant de l'avoir lu. Ça va de soi. Il va de soi que ce sera passionnant. Le fait est que c'est passionnant. Alors, le problème, souvent, à la fois dans le milieu catholique, mais bien au-delà, moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu énervé, c'est par exemple la critique du catholicisme dit identitaire. En oubliant que l'homme n'est pas pur esprit, et c'est souvent par la médiation de la culture, des traditions, de l'identité, de la concrétude de ce monde qu'il peut arriver aux sources culturelles du culturel. Premier élément. Et Laurent, dans les deux ouvrages, rappelait l'importance absolue des médiations. Ensuite, sur la question de l'identité, les deux pôles à tenir sont les suivants. Le cosmopolitisme, l'universel, disons ça comme ça. Donc l'aspiration naturelle de la conscience, une forme d'universalité. Et de l'autre côté, le fait qu'il n'y a pas d'universel sans médiation, sans enracinement, sans ancrage dans une culture. Mais ça, il faut être capable de le thématiser. Et Laurent le faisait de très belle manière dans l'ouvrage, à la lumière évidemment du catholicisme qui est la religion, certes, mais la philosophie, à certains égards, qui pense le mieux, je crois, l'incarnation, qui pense le mieux la dialectique de l'enracinement et de l'universel. Donc, c'est un livre que j'ai lu avec passion. Je me souviens, soit dit en passant, je ne vais pas vendre le nom publiquement de gens qui m'en ont dit grand bien, mais un candidat à la présidentielle, par exemple, m'avait dit « Ah oui, c'est un livre absolument remarquable. Laurent Dandrieu, c'est un des intellectuels qui compte
aujourd'hui. » Jean-Luc Mélenchon.
Vous êtes toujours capable de me deviner, cher ami. Non, Jean Lassalle. Ensuite, le livre, par ailleurs, pour ceux qui cherchent à mettre des mots justement sur cette dialectique de l'enracinement et de l'universel, il le faisait en l'inscrivant dans le catholicisme, et ça touchait, je crois, tous ceux dans la jeune génération qui ont cette intuition, mais n'ont pas soit la culture, soit ne sont pas capables de pousser plus loin leur premier élan. Donc, et c'est un véritable ouvrage de philosophie politique, quoi qu'on en dise, et ces questions doivent être traitées dans le langage de la philosophie politique pour durer, au-delà des polémiques circonstancielles.
Laurent,
très belle
vous
hommage.
La parole.
Très bel hommage, merci
beaucoup.
Je suis
d'accord.
Je suis très flatté. Non, mais effectivement,
est-ce que c'était pas Rome ou Babel ? Est-ce que c'était pas peut-être, j'ai le sentiment, là, le lisant, que c'était le livre peut-être le plus dur à écrire.
Ah, bien sûr.
Le plus de travail, parce que c'est un boulot de dingue, une réflexion qui demande beaucoup de hauteur, et puis c'est aussi, vous êtes catholique, donc vous parlez de l'intime, votre âme,
alors,
votre cœur, tout ça. Quoi.
Le plus dur émotionnellement à écrire, c'est Église et immigration.
Ouais.
Parce que je me disais en me lançant, je vais critiquer les positions de l'Église sur le sujet. C'est un peu audacieux, mais je vais probablement pouvoir m'aider d'ouvrages qui ont été publiés sur le sujet dans le monde anglo-saxon. Et je n'en ai pas trouvé. Et donc je me suis aperçu qu'en fait je me lançais tout seul à l'assaut de la citadelle église et que c'était un peu Laurent Dandrieu contre le reste du monde. Donc je l'ai écrit avec crainte et tremblement, c'était très compliqué. Après Rome ou Babel, oui, ça a été un travail de 5 ans parce que le sujet était compliqué et aussi parce que voilà, n'étant pas universitaire, n'étant pas philosophe, je me sentais pas forcément la légitimité d'y aller sans biscuit, donc j'ai voulu m'abriter derrière beaucoup de lectures. Il y a énormément de citations d'auteurs dans ce livre-là, et donc j'ai fait un travail de documentation préalable qui a été très 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 long. Et évidemment, plus vous documentez et plus vous accueillez, plus l'accouchement de la synthèse est compliqué. Donc ça a été un livre difficile à écrire, mais je pense que une fois que je l'ai écrit, ça m'a aidé aussi à comprendre la cohérence finalement qu'il y avait entre mes différents livres qui effectivement tournent tous autour de cette idée de transmission de la civilisation, autour de cette idée d'incarnation, autour de cette idée d'enracinement, autour de cette idée de médiation et notamment de médiation culturelle pour arriver à une quête de la vérité.
pour la petite histoire, si je peux me permettre, Église et Migration, de mémoire, a fait la une du monde. Donc avec un type dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui, je me rappelle plus c'était qui. Bon, il était un peu à la mode à une époque.
C'est le journaliste du Monde, Henri Tin, qui s'est...
C'était un adversaire intellectuel.
Oui, un adversaire intellectuel.
Qu'on m'avait mis dans les pattes.
Un adversaire éditorial.
Oui, je me rappelle pas son nom.
Que son nom soit maudit.
Je sais qu'il a existé, mais pas davantage. Et donc ça nous parlait d'une polémique, bon, polémique dans le sens noble du terme, qui secouait l'Église de France dans le rapport à l'immigration. Donc le livre de Laurent incarnait dans la description du Monde de mémoire la position de bien des fidèles qui avaient des réserves à l'endroit de leurs évêques, disons ça ainsi, et qui se saisissaient de la tradition catholique en la connaissant souvent mieux que les autorités consacrées. Donc faire la une du Monde au cœur d'une polémique qui touche l'institution qui a traversé l'histoire de ce pays, c'est pas mal.
C'est pas rien.
Quatrième moment d'immodestie, j'ai fait avec ce livre la une du Monde, mais aussi du New York Times et de l'Observatore Romano.
Je le hais. c'est pas très poli, ça.
Vous êtes le plus fier de quoi, du Time, de l'Observatore?
Bon, non, les trois m'ont fait plaisir. Non, mais c'est vrai que j'étais assez pas fier, parce que ça tenait pas à moi, ça tenait au sujet. C'est l'importance du sujet.
Non, l'autre dont on a oublié le nom parlait aussi du sujet.
Le fait est qu'il y a eu un battage médiatique et des débats incessants pendant des mois autour de ce livre, parce que c'était vraiment une question cruciale qui divisait profondément le milieu catholique, mais dont personne n'osait s'emparer vraiment à cause d'un respect mal placé envers l'institution. Et je pense que l'un des petits mérites de ce bouquin, c'est que ça a fait prendre conscience à pas mal de gens que, le respect de l'institution Église, c'est bien, mais il faut aussi que dans l'Église, il y ait une place ouverte au débat contradictoire, ce qui n'était pas forcément acquis. Et moi, une de mes grandes fiertés dans cet épisode-là, c'est que le diocèse de Rouen organisait tous les ans, en clôture des fêtes johanniques, une disputatio dans la cathédrale. Et donc, j'ai été invité cette année-là à faire cette disputatio face d'un père jésuite qui était l'ancien responsable du service jésuite des réfugiés, et devant l'évêque émérite, le préfet, le maire, toutes les autorités constituées et à peu près 500 personnes, nous avons débattu très calmement et très poliment et très courtoisement pendant une heure dans la cathédrale des positions de l'Église sur l'immigration. Et j'avoue que c'était un moment assez impressionnant pour moi. Enfin, déjà, prendre la parole dans une cathédrale, c'est toujours un peu...
Moment d'immodestie 5. J'ai eu le bonheur aussi d'accompagner. Ah, j'en souviens très bien, c'était le jour de la sélection, le premier tour de la primaire des Républicains en 2021. De ça, c'était la part basse de l'existence. Et au même moment, j'étais avec Laurent à l'Académie française quand il a reçu le prix de l'Académie, je ne sais lequel, pour son livre La Confrérie des Intranquilles.
Bien sûr.
Donc là, on ajoute ça. Donc là, il y a le prix de l'Académie, il y a le New York Times, il y a le truc de Rome. Voilà.
Le truc de Rome, là.
J'ai eu aussi un prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour Rome ou Babel aussi.
Au deuxième.
Mais en fait, vous êtes en quelque sorte, vous avez fait un MeToo catholique identitaire. Vous avez libéré la parole.
Non, parce qu'en fait, le sujet était déjà là, mais c'est vrai que maintenant, c'est un vrai sujet de débat. Et d'ailleurs, on voit qu'au sein du clergé, il y a des évolutions dans la prise d'opposition. Au sein des intellectuels catholiques aussi, moi je me rappelle quand le pape François est venu à Marseille, une tribune très offensive de Pierre Manon sur le sujet.
Oui.
On voit que vous avez un peu libéré la parole.
Et j'étais très frappé du fait que un grand journaliste pour lequel j'ai énormément d'admiration, quand je lui ai parlé de ce projet, m'a dit « Mais vous êtes fou, vous n'allez jamais y arriver. En fait, à partir de quoi vous allez critiquer la position de l'Église ? C'est simple laïque, c'est totalement impossible à faire. Je m'étais dit « Bah oui, mais en même temps, il faut le faire et il n'y a aucun... prêtre qui le fera, parce que c'est trop compliqué à faire pour un prêtre d'un point de vue statutaire. » Et donc j'étais d'autant plus satisfait de voir que ce journaliste que j'admire, quand le livre est sorti, on a fait un éloge dithyrambique dans la publication dans laquelle il publiait, mais c'est vrai que c'était un peu Mission Impossible. Ouais.
Richard, Frédéric, Pierre-Alexandre, vous vous rappelez de la sortie de ce premier livre et le deuxième, la réception? Parce que moi je me rappelle, dans certains cercles catholiques, c'était un peu Voldemort, hein, Laurent Mandrieux.
Oui. On m'a accusé de ne pas être chrétien. J'ai un ami qui défendait mes position avec les amis de sa paroisse du côté de Nantes. Et donc, il dit sur l'immigration, voilà ce qu'il faut penser. D'ailleurs, Laurent Dandrieu dit que. Et là, son interlocuteur lui dit mais Laurent Dandrieu, tout le monde sait très bien qu'il n'est pas catholique. Parce qu'effectivement, comme j'avais osé critiquer les positions du pape, je suis devenu un peu un diable pour certaines personnes.
C'était une critique par ailleurs polie et respectueuse. Alors qu'il était permis, quand on n'était pas dans ces cercles-là, de confesser une exaspération totale pour François.
J'avoue que l'éditeur à l'époque m'a fait supprimer quelques adjectifs.
Oui, ça m'a paru.
Il faut surtout souligner, et Laurent l'a dit tout à l'heure, il y a une richesse documentaire dans le livre qui fait que le pape François est peut-être critiqué, mais il est critiqué en s'appuyant sur juste une douzaine de papes précédents qui d'ailleurs sont eux-mêmes critiquables. Ce qui est intéressant dans la pensée de Laurent, c'est qu'il il s'agit pas du tout d'écrire en dehors de l'Église un brûlot contre l'Église ou d'écrire en dehors de l'Église une espèce de défense culturelle de l'Église. Il s'agit, en tant que chrétien, de développer sa foi exactement comme l'entend le cardinal Newman. Et là, l'Église a choisi un développement qui est mauvais. On se rend compte que Léon XIV est en train de revenir en partie sur la pensée de François. Personne n'est là en train d'écrire de grands articles pour expliquer que Léon XIV est en train de poignarder François. On se contente de faire passer ça en espérant que personne ne se rendra compte qu'on est en train de changer la pensée du défunt pape. Et Laurent, lui, développe les arguments, développe la vision, et il n'est pas contre un homme, il est contre une idée mauvaise.
Et puis surtout, je l'ai écrit, évidemment je l'ai écrit à destination des catholiques, mais je l'ai écrit à l'attention aussi des ex-catholiques ou des identitaires qui, à cause des positions de l'Église sur l'immigration, pensaient que le catholicisme dans son ensemble était une chose catastrophique.
Mais le livre commençait de mémoire, est-ce que c'est celui-là ou l'autre qui commence avec une conversation qu'un intellectuel identitaire qui vous dit si le monde...
Ça, c'est Église et immigration.
Ouais, voilà. Donc, si le monde...
Si un jour l'Occident prend conscience qu'il va être submergé par les vagues migratoires et décide de reprendre son destin en main, le dernier obstacle qu'il trouvera sur sa route, ce sera l'Église catholique. Et j'avais bataillé avec cet intellectuel pendant tout le dîner pour défendre le catholicisme, et sur ce point particulier, je me suis dit, zut, là j'ai rien à répondre, en fait il a raison. Mais j'ai écrit ce livre aussi en partie pour faire comprendre aux gens que ces positions sur l'immigration dégoûtaient du catholicisme, pour les convaincre de ne pas jeter le bébé catholicisme avec l'eau du bain immigrationniste.
Alors on a une question d'un auditeur, absolument rien à voir avec le sujet, mais on va revenir au sujet. Très belle émission, merci. Est-ce que Laurent Dandrieu pourrait m'expliquer en 30 secondes le dénouement du prisonnier ? Je précise, j'ai 57 ans, je n'ai toujours pas compris. Et j'ai quand même une haute fragilité d'être fan d'Iron Man.
Ouais, c'est un dénouement absolument ouvert et donc qui est sujet à toute forme d'interprétation possible.
Oh, mais la réponse de
Non, parce que d'abord je te rappelle que... Alors d'abord je te rappelle qu'il y a un synonyme à focus, c'est normand. Voilà, c'est plus une réponse de normand. Je le dis d'autant plus gentil que je suis normand moi-même. Je ne suis pas focus parce que je vais donner ma propre interprétation. Et en fait, c'est vrai que tout le thème du prisonnier.
Ceux qui n'ont pas vu le prisonnier, oui. Vous éteignez l'émission et puis vous la rallumez dans deux minutes.
Non, mais on va leur expliquer très rapidement ce que c'est. C'est un ancien agent secret qui donne sa démission, qui se réveille le lendemain matin après avoir été kidnappé dans un village où il est prisonnier. Il ne sait pas s'il est prisonnier des gens de l'Ouest ou des gens de l'Est. Il essaye de s'échapper, il n'y arrive jamais. Il ne sait pas qui sont ses oppresseurs et on essaye de lui faire avouer quelque chose, mais lui-même ne sait pas ce qu'on essaye de lui faire avouer. C'est évidemment un univers totalement huxleyien ou orwellien et une métaphore évidente du totalitarisme. Et il est toujours question du numéro 2, qui est le chef du village, et on cherche à savoir qui est le numéro 1. Et à la fin du dernier épisode, eh bien, le prisonnier découvre que le numéro 1, c'est lui-même. Il a son propre visage. Et en fait, pour moi, c'est simplement le fait que l'une des caractéristiques du totalitarisme, c'est de vous cannibaliser le cerveau et de faire de vous-même votre propre bourreau et votre propre geôlier, en quelque sorte. C'est comme ça que j'ai compris la chose personnellement.
Vous validez, Richard ?
C'est lumineux. Je regrette de ne pas avoir posé la question plus rapidement à Laurent.
Oui, je t'aurais fait gagner
40 ans qu'on est copains.
Fait gagner 40 ans. C'est...
Bon, ben, je vais regarder cette série, ça date de quand ça?
Ça date de 67.
Ouais, mais on a la fin. C'est pas grave, je préfère connaître la fin des débuts.
Il y a 17 épisodes géniaux.
C'est passionnant, c'est passionnant.
17 épisodes?
Ou 14.
C'est moins que Game of Thrones.
Je crois que c'est un épisode de plus que de numéro de réaction, donc c'est 14.
Revenons à l'église, si vous le voulez bien. Alors, vous aviez écrit vos deux livres à l'époque de François. Depuis, il a été grand remplacé par Léon. Comment vous jugez le début de pontificat de Léon XIV?
Alors, jusqu'à la semaine dernière, je le jugeais très positivement.
Ah.
Non, je pense qu'effectivement, un pontificat très politique a succédé à un pontificat complètement christocentrique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je suis très frappé du fait que dans le premier discours qu'il a, pas l'homélie, mais que la première réunion qu'il a eue avec les cardinaux au lendemain de son élection, il a dit que le premier point de sa feuille de route de son pontificat, c'était de remettre le Christ au centre de l'annonce de l'Église. Alors ça peut paraître une tautologie totale, mais en fait c'était pas si évident que ça apparemment, puisqu'il avait éprouvé le besoin de le dire. C'est dire à quel point son prédécesseur s'était assez peu préoccupé d'annoncer l'Évangile. Donc de ce point de vue-là, il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration dans le désir d'unité, c'est-à-dire que le pape François n'aimait rien tant que cliver, énerver ses adversaires et expliquer que ceux qui ne pensaient pas comme lui étaient des cœurs de pierre et des schismatiques et des gens atroces.
Et des diaboliques.
Et des diaboliques. Et donc de ce point de vue-là, aussi changement d'ambiance. Changement d'ambiance aussi sur un certain retour à une solennité liturgique. Que depuis que l'élection de Léon XIV, on entend beaucoup plus de latin à Rome, beaucoup plus de grégorien, ça a beaucoup plus d'allure. Et par ailleurs, il y a des textes qui sont d'une profondeur. Sa première homélie à la chapelle Sixtine est une pure merveille. Et à chaque fois qu'on lit un texte de Léon XIV, on est vraiment nourri spirituellement. Là où je suis un peu déçu, c'est qu'il a affronté avec l'histoire des sacres de la Fraternité Saint-Pie X la première grande crise de son pontificat, et je crains qu'il n'ait absolument pas pris la mesure du problème. Pendant une année, il a totalement évité la question traditionaliste. Il a envoyé un vague message à la conférence des évêques de France en disant je serais assez content si vous imaginiez des solutions sur ce problème, parce que, sous-entendu, moi j'ai pas trop d'idées sur la question, ce qui est quand même un peu léger. Et clairement, quand la Fraternité Saint-Pie X a annoncé cet acte grave qui est de sacrer des évêques sans autorisation de Rome, ce qui est effectivement passible d'une excommunication automatique, il n'y a pas eu vraiment de réaction intéressante du Vatican. Il n'y a pas eu il y a eu une vague proposition de discussion théologique un peu foireuse qu'on a confiée par ailleurs au préfet de la doctrine de la foi, qui est un progressiste pur sucre, donc ça avait peu de chances d'aboutir. Et en fait, il y a eu une vague, enfin pas une vague, mais il y a eu une admonestation solennelle du pape la veille des sacres en disant renoncer à ça. On savait très bien qu'ils n'allaient pas annuler le truc la veille. Et il n'y a eu aucune solution réelle, tout simplement parce que il n'y a pas eu, je pense, de prise de conscience du problème. Je m'empresse d'ajouter que par ailleurs, du côté de la frate, ils n'ont jamais proposer aucune solution pour sortir de la crise, et ils font semblant d'être très ennuyés, d'être excommuniés, mais en fait ils sont assez ravis de la situation qui leur permet d'avoir une paix royale et de continuer à faire ce qu'ils font dans leur coin sans que personne ne les enquiquine. Mais la principale autorité étant celle du pape, et bien c'est plutôt de là qu'on attendait une solution qui n'est pas venue par indifférence au problème, qui est un problème qui pourtant dépasse très largement le cadre de la Fraternité Saint-Pie X, et dont on ne sortira pas parce que Rome s'obstine à avoir sur la question traditionnaliste une approche purement juridique et refuse de se poser deux questions absolument essentielles, qui sont la première, pourquoi est-ce qu'il y a cet attrait formidable pour la liturgie traditionnelle 60 ans après la réforme liturgique, et pourquoi 60 ans après la fin de Vatican II, il y a-t-il très au-delà des milieux traditionnalistes, beaucoup de gens qui sont extrêmement critiques sur ce concile. Donc tant qu'on n'aura pas posé la question de la légitimité de la liturgie traditionnelle, et tant qu'on n'aura pas cessé de considérer Vatican II comme une vache sacrée absolument incritiquable, on ne sortira pas de cette crise qui ne va faire que s'aggraver, et on va continuer malheureusement à diviser l'Église. Et je suis absolument navré, moi, quand Léon XIV a été élu, on a fait un hors-série de valeurs actuelles que j'ai rédigé et que j'avais titré Léon XIV, un pape pour l'unité. Je pensais que ce souci d'unité serait vraiment le marqueur de son pontificat, et je dois constater que ces sacres et l'excommunication les excommunications qui ont suivi, qui sont vraiment le premier gros échec de son pontificat, malheureusement sont aussi un échec pour l'unité de l'Église.
Le pape vient en France en septembre.
Ce qui est une très bonne chose.
Ce qui est une bonne chose, en effet. Alors, enlevons ce premier échec selon vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite du pape ? Est-ce que vous mettez des espoirs ?
La première chose, c'est que il va certainement parler du respect de la vie et de l'euthanasie. Malheureusement, ce sera un peu tard puisque la loi aura été adoptée. J'en profite pour signaler que circule actuellement une supplique au pape qui est accompagnée d'une pétition qui lui demande justement de signaler aux autorités françaises que si cette loi est adoptée et promulguée, eh bien, il ne jugerait plus nécessaire de venir en France. Bon, ce qui est une initiative qui ne me paraît pas inintéressante. Après, effectivement, j'ai suivi comme tout le monde son déplacement en Espagne, où est notamment son discours devant le Parlement espagnol, où il a eu des paroles très fortes sur la défense de la vie, sur aussi la nécessité d'inclure une réflexion morale éthique dans le travail législatif, et sur la légitimité de l'Église à donner son avis sur ces sujets-là. Il y a eu des paroles extrêmement fortes, en même temps qu'il y a eu des actes liturgiques extrêmement puissants, qui était assez, avec une ferveur populaire qui était assez impressionnante. J'adorerais qu'il puisse parler dans le Parlement français, mais vu la conception française de la laïcité, j'ai peur que ce soit un peu compliqué.
Imaginez la délicate réaction de nos amis de LFI.
Oui, j'imagine qu'il effectivement braillerait des insanités pendant le discours du pape. Mais je pense que, en tout cas, il aura certainement, comme il a eu en Espagne, des paroles très fortes. Et je pense qu'il est particulièrement désireux de venir en France, non pas seulement parce que, comme il l'a dit, il a toujours rêvé de découvrir Notre-Dame, mais parce que il est particulièrement intéressé par la vague de conversion de jeunes adultes qu'il y a en ce moment, qu'il y voit un signe qu'il est important d'encourager. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est toute cette visite est tout à fait susceptible de donner à cette vague de conversion une sorte de deuxième souffle tout à fait bienvenu. Et peut-être que enfin on va arriver à une situation où peut-être que on arrivera à redresser un peu la courbe des vocations, qui sait, rêvons.
Il nous reste 3 minutes et je vous propose, chacun, vous sortez un livre de Laurent qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus plu parmi dans sa grande bibliographie.
Eh ben moi, c'est peut-être le Woody Allen, qui est peut-être un des plus anciens, peut-être même
le premier.
Plus ancien.
C'est le premier. Oui.
Et que j'avais vraiment beaucoup aimé, en me demandant simplement si Woody Allen aurait partagé le point de vue de Laurent Dandrieu sur ce qu'il lui prêtait.
Alors, le livre lui a été remis en main propre, mais j'attends encore malheureusement sa réaction.
Mais en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup... ça m'avait semblé extrêmement vraisemblable, en tout cas, et j'avais beaucoup aimé ce livre.
Frédéric Rouvillois.
C'est difficile de faire un choix. J'avais chroniqué naguère la confrérie des intranquilles que j'avais beaucoup aimé. Mais effectivement, le Woody Allen, pour moi, d'abord, il était important, amusant. Je trouvais qu'en plus que Woody Allen sur la photo de couverture ressemble énormément à Laurent Dandrieux, à moins que ça ne soit l'inverse. Et en plus, c'est. Voilà, Laurent pendant longtemps avait des ouvrages, des romans dans ses tiroirs, mais n'avait pas réussi à oser les sortir. Et donc le fait qu'enfin il se lâche et qu'il ouvre devant lui ce qui va devenir une œuvre, ça m'a paru spécialement intéressant et important.
Mathieu, votre côté.
Voilà, je vais manquer terriblement d'originalité, mais j'allais dire la même chose de Woody Allen parce que c'est le premier, tout simplement. J'ai lu le livre et puis ça me semblait donner un sens à l'univers de Woody Allen. Si on peut en ajouter un pour le plaisir, mais là oui. Je copie Rouvillois, c'est la confrérie des intranquilles parce que c'est un rapport à la critique littéraire. Le type d'angoisse, enfin pas l'angoisse, mais l'inquiétude métaphysique qui traverse la critique littéraire, je trouve que c'est un livre particulièrement réussi. Je peux en ajouter. Rome ou Babel, évidemment, parce que c'est le livre de philosophie politique nécessaire sur les questions identitaires. Et j'arrête maintenant.
Et le dictionnaire du cinéma pour la famille. Parce que moi, ils mettent
très précieux l'avait dit
pour la famille.
Oui, mais... Ah oui. Richard,
pour les enfants.
D'abord, tu me demandes de choisir entre papa et maman, c'est très compliqué. J'ai adoré chacun de ces livres. Non, mais non, moi, c'est vraiment Louis XIV et le Bernin, parce que c'est l'essai le plus romancé, si j'ose dire, de Laurent. C'est beaucoup mieux qu'un recueil d'articles, parce que voilà, c'est un vrai travail de recherche. C'est le Laurent qui n'est pas en train de batailler pour établir la vérité. C'est le Laurent qui a perçu une vérité intime de la relation entre Louis XIV et le Bernin et qui écrit un livre pour nous la communiquer. C'est le Laurent tendre et moins pessimiste qu'à l'ordinaire. Donc j'aime beaucoup ce livre.
Bravo. Mais là, il y a l'autre livre pour venir, ça l'a dit. Ou dans les prochaines semaines,
chez moi.
Dans Laurent, il nous reste une minute. Alors, vous ne partez pas en retraite. Vous quittez simplement ce poste exigeant de rédacteur en chef des pages culture de VA. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Eh ben, je vais d'abord continuer ma chronique hebdomadaire dans Valeurs Actuelles. Je vais continuer à écrire à droite, à gauche, évidemment plutôt à gauche qu'à droite, comme vous vous en doutez. Et j'ai une liste de livres à écrire si le transhumanisme ne devient pas une réalité, ma vie n'y suffira probablement pas. Donc
le dictionnaire passionné du cinéma qui va arriver en 2027 avec 6000 à 12000 films.
D'ici là, normalement, à la rentrée 2027, il y aura un roman qui s'appelle Ma vie sans Audrey Hepburn.
Ça sera votre premier roman.
Mon premier roman publié.
Oui, publié. on n'a pas lu les autres non publiés. Merci à tous, merci Laurent d'avoir participé à cette émission hommage à vous.
Merci du grand honneur que vous m'avez fait tous par votre présence et vos éloges, merci infiniment.
Et donc nous sommes vendredi, donc vous retrouvez Pierre-Alexandre Bouclet lundi pour une belle émission, vous allez voir.
Avec Arthur de Vatrigan.
Oui, et je crois que je sais de quoi on parle parce que j'y étais. Richard mardi,
c'est quoi
ça sera une surprise. Richard mardi, j'aurai la joie, l'honneur de vous retrouver mercredi, et puis jeudi sera Marc Hainaut, et puis vendredi on verra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
Merci infiniment.
Ça suffit maintenant.